que vous allez suivre est une rediffusion. Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
And now, ladies and gentlemen, the makers of human emotions.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. Yes,
bonjour, la circulation du virus continue en Europe, même si elle s'est beaucoup ralentie, et voilà tous nos déplacements chamboulés. Crise de l'automobile, secteur aérien moribond, le Covid-19 réécrit la carte des liaisons européennes. Pour la Lufthansa en Allemagne par exemple, 700 avions sur 760 cloués au sol et 3000 passagers par jour au lieu de 350 000. Les conséquences du coronavirus pour la compagnie aérienne sont énormes. Ses pertes se chiffrent aujourd'hui à 1 million d'euros par heure. Pour éviter la faillite, la direction de Lufthansa et le gouvernement allemand se sont mis d'accord de haute lutte sur un plan de sauvetage. Un plan qui est loin de faire l'unanimité. Les explications de Déborah Berlioz.
La députée écologiste Katharina Dröge est d'accord avec le gouvernement sur un point. L'État doit aider la Lufthansa. Il faut dire que l'entreprise affichait de très bons résultats avant la crise et son importance systémique ne fait pas débat ici. Premier groupe de transport aérien d'Europe, sa faillite aurait nécessairement un impact très négatif sur l'économie allemande dans son ensemble. Toutefois, le plan de sauvetage du gouvernement est loin de satisfaire la députée. Ce projet prévoit 9 milliards d'euros d'aide publique. Si une partie sera versée sous forme de prêts garantis, l'État va également entrer au capital de la Lufthansa. Il devra en effet acquérir 20% des parts de l'entreprise. Pour Katharina Dröge, ce n'est pas suffisant. Étant donné le montant versé, l'État devrait obtenir au moins 25,1% des parts, ce qui lui assurerait une minorité de blocage.
Un investisseur privé ferait exactement la même chose. Il n'investirait jamais de telles sommes sans avoir un droit de regard dans la gestion de l'entreprise. Donc nous demandons que l'État ait voix au chapitre. Et cette aide de l'État doit aussi être liée à certaines conditions, comme l'arrêt du versement des dividendes aux actionnaires et la suppression des bonus pour les managers pendant la crise. Et il faut aussi un accord en vue de la neutralité climatique.
Alors certes, le gouvernement n'aura pas de minorité de blocage et il n'aura donc une influence relativement limitée sur la gestion de la Lufthansa. Toutefois, l'aide étatique ne vient pas sans conditions. L'État a bien exigé l'arrêt du paiement des dividendes et des bonus. Et selon les informations du journal Der Spiegel, des objectifs de respect de l'environnement ont également été imposés. La compagnie pourrait notamment renouveler sa flotte avec des avions moins gourmands en énergie. Cette question des contreparties a provoqué de vifs débats au sein de la coalition gouvernementale. Plusieurs conservateurs se sont fermement opposés à une participation active de l'État dans la gestion de la Lufthansa. Et le ministre de l'économie, Peter Altmaier, avait refusé avec force de conditionner l'aide d'État à des objectifs de respect de l'environnement. À l'inverse, les sociaux-démocrates, alliés des conservateurs, ne voulaient pas faire un chèque en blanc à l'entreprise. Pour Arno Klare, député social-démocrate, l'État doit au moins protéger les travailleurs. C'est d'autant plus important que la Lufthansa ne sortira pas indemne de la crise.
On parle d'une réduction de la flotte de 100 avions. Par ailleurs, 10 000 postes devraient être supprimés dans le groupe Lufthansa, qui emploie 130 000 personnes dans le monde. Ces questions doivent être réglées aussi en tenant compte des intérêts sociaux.
À l'inverse, de nombreux économistes et conservateurs pensent qu'une trop grande implication de l'État dans les affaires de la Lufthansa serait néfaste pour la compagnie. C'est notamment l'avis de Klaus Schmidt. Ce professeur préside le conseil scientifique consultatif du ministère de l'économie.
Dans le passé, plusieurs entreprises dirigées par l'État n'ont pas eu beaucoup de succès. Les télécoms sont un exemple classique ici. Ils ont longtemps été aux mains du gouvernement qui ne les a pas dirigés de manière efficace. Après leur privatisation, ils ont fait un énorme bond en avant, et pas seulement au niveau des coûts et de l'efficacité économique. Ils ont aussi fait de grands progrès sur l'innovation, les nouveaux produits, etc.
Cette nationalisation partielle rappelle d'ailleurs la situation de la Commerzbank lors de la crise financière de 2008. Là aussi, l'État était entré au capital de l'entreprise pour la sauver de la faillite. Mais le cours des actions de la banque n'a cessé de fondre ces dernières années. Dans ces conditions, il est impossible pour l'État de revendre ses parts sans subir de lourdes pertes. Résultat, le gouvernement est toujours actionnaire de la Commerzbank. Un scénario que le gouvernement ne veut pas répéter avec la Lufthansa. Le ministre de l'économie a été clair. Dès que la compagnie aérienne se portera mieux, l'État devra se retirer. Mais en ces temps de crise, une date de sortie reste difficile à prédire. Swing, swing,
En Hongrie, la circulation automobile a baissé ces deux derniers mois à Budapest. La capitale en a profité pour aménager des pistes cyclables sur plusieurs grands axes. De quoi lui permettre de rattraper un peu son retard en la matière, Florence Labruyère.
Les Budapestois le surnomment le Grand Boulevard. Cette grande artère en forme de demi-cercle est d'habitude encombrée par les bouchons. Et pour la première fois, les cyclistes n'ont plus besoin de slalomer entre les voitures. Depuis le 28 avril, ils roulent en toute sécurité sur une nouvelle piste cyclable. Zoltan est informaticien, il est ravi.
Moi je pense que c'est un effet positif de cette crise. Il y a plus de place pour les vélos et on est plus en sécurité. Je prends souvent le Grand Boulevard, c'est un axe qu'on ne peut pas éviter. C'est vraiment bien qu'il y ait une piste cyclable ici, ça change la vie. Et puis ça ne demande pas de gros investissements.
Ce changement est d'abord dû à l'élection d'un nouveau maire écologiste en octobre dernier. L'objectif du nouvel édile, Gergely Kurácsony, est de faire de Budapest une ville plus verte et qui fait la part belle au vélo. Explication du maire adjoint, David Doros.
On voulait déjà transformer le réseau de transport en un système plus écologique, car le développement durable est au cœur de notre programme politique. Mais la crise du Covid nous a aussi poussé dans cette voie, au début de l'épidémie, quand on a vu que beaucoup d'habitants évitaient de prendre les transports en commun et choisissaient plutôt le vélo, on a décidé d'augmenter leur sécurité en installant de nouvelles pistes.
Outre le Grand Boulevard, d'autres avenues se sont enrichies d'une voie pour les vélos. En tout, une vingtaine de kilomètres supplémentaires sont en train de voir le jour. Le réseau cyclable, qui comptait 325 kilomètres jusqu'ici, approchera bientôt les 350 kilomètres. Pour le maire adjoint, David Doros, l'objectif est clair.
Actuellement, à Budapest, le vélo représente 2% des déplacements, mais après et à Varsovie, 10% des trajets s'effectuent à bicyclette. Nous aimerions beaucoup nous approcher de ce chiffre.
Cela faisait des années que le club cycliste hongrois faisait du lobbying pour développer le réseau cyclable. Le porte-parole du club, Aaron Halas, est ravi.
C'est un très grand pas en avant. Le trafic automobile a diminué de moitié. La fréquentation des transports en commun a été divisée par 10. Si on augmente le nombre de voies cyclables, de plus en plus d'habitants auront envie de se mettre au vélo. Et tout ça va améliorer la qualité de l'air, y compris pour les piétons.
Pour l'instant, ces nouveaux couloirs pour les vélos sont temporaires. En septembre prochain, la ville décidera de la pérennisation de ces pistes cyclables.
De nouveau, une centaine de kilomètres de bouchons le matin à Paris et en Ile-de-France. On n'avait pas vu ça depuis 2 mois maintenant. Et pour éviter le retour du tout voiture avec le déconfinement, la ville et la région misent sur le vélo. 50 kilomètres de pistes cyclables provisoires en plus dans la capitale française, des projets d'extension en banlieue, des subventions pour la réparation de vélos ou l'achat d'une bicyclette électrique. Avec la crise sanitaire, la politique vélo connaît un vrai coup d'accélérateur, Frédéric Lebel.
C'était il y a encore quelques semaines un cauchemar pour les vélos. Le pont de Neuilly, qui relie la capitale au plus grand quartier d'affaires d'Europe, la Défense, voie royale pour les voitures et le métro, a désormais sa piste cyclable. Voilà 30 ans que Zaya va au travail à vélo. Elle n'y croyait plus.
Eh ben, ils en ont mis du temps pour la faire. C'est super. Et sur le pont, encore mieux. Et ça va continuer jusqu'à Courbevoie et même plus loin. D'habitude, je prends le boulevard circulaire pour aller à la Défense et je me suis fait shooter par un camion l'année dernière parce que justement les bagnoles ne considèrent pas les vélos et même en étant très prudente, ça ne suffit pas. Pendant une demi-heure, je me suis oubliée, je n'étais plus à Paris, j'étais en Hollande avec leur piste très bien aménagé.
Les militants de Toujours du vélo savourent aussi leur victoire, comme Stein van Osteren, le porte-parole du collectif Vélo Île-de-France, hollandais, ça ne s'invente pas, heureux, mais pas encore comblé.
Ben oui, on est exigeant. Ce dont on rêve, c'est quand même de faire comme aux Pays-Bas, c'est-à-dire un réseau cyclable accessible à toutes les personnes entre 4 et 104 ans. Et on n'en est pas encore là, même avec les pistes cyclables temporaires. Mais on ne va pas râler, bien au contraire, parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est une révolution historique.
50 km de ce qu'on appelle déjà les coronapistes sont donc délimités par des marquages au sol, des blocs en béton ou de simples plots. Les collectivités n'ont pas encore pris d'engagement pour des pistes pérennes et bien protégées. On en reste au stade de ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. On teste et on décidera ensuite. Mais l'activiste Stein von Osteren a lui son plan pour les années à venir.
Le Vélopolitain, c'est un réseau cyclable qui a été imaginé par les deux grandes associations vélo de Paris, c'est-à-dire Paris Ancel et MDB. C'est la même chose que le réseau du métro, mais en surface avec des pistes cyclables. Donc il y a le même nombre de lignes, etc. Et je crois que ces 50 km, ça correspond à peu près à la moitié de ce réseau. Donc là, bientôt, les gens, au lieu de prendre le métro, qu'ils n'ont pas envie de prendre parce qu'il manque de distanciation sociale, ils pourront prendre des pistes cyclables. Donc c'est un énorme pas en avant. Ce n'est toujours pas suffisant parce que tout simplement, c'est un travail qui va prendre du temps.
Un plan qui pourrait s'élargir à la banlieue avec des voies cyclables qui suivraient le tracé du réseau express régional. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans l'utopie. Lors des grandes grèves de décembre dernier, une étude précise des déplacements a prouvé qu'à surface égale, les pistes cyclables permettaient de transporter 7 fois plus de personnes que les artères réservées aux voitures et aux deux roues. Pour se déplacer à vélo, il faut une piste, mais il faut aussi une bicyclette. Les marchands de cycles se frottent les mains, les fabricants aussi.
Allô ?
À Lille, la société Haut de Fil, spécialisée dans les vélos électriques, a vu ses ventes multipliées par 4 depuis le début du déconfinement. Grégoire Brunet, son cofondateur et co-gérant.
Là, on vit vraiment un boom, une explosion. Là, c'est pas du tout une continuité. On a souvent entendu parler, les analystes dans la presse, d'une reprise en V, est-ce qu'elle va arriver ou pas. Concernant notre activité, le vélo électrique, nous, on a la chance de pouvoir dire qu'à l'heure actuelle, c'est une véritable reprise en V qui est totalement explosive.
Avec 10 ans d'existence, la petite société emploie aujourd'hui 40 personnes. Tous ces modèles sont conçus et dessinés en France. Ils seront bientôt assemblés pour moitié au Portugal. Mais pour ce qui est de la fabrication, le Made in Europe n'est pas pour demain.
La grande problématique, c'est qu'il n'y a quasiment pas un cadre aluminium qui est fait sur le sol européen. Tout est fait en Asie. Tous les éléments techniques, la plupart, sont faits en Asie. Donc là, la problématique première, c'est déjà que tous ces sous-traitants réussissent à rapatrier sur le sol européen les composants dont nous avons besoin pour monter nos vélos. Et à partir de là, on pourra vraiment parler d'un vélo made in Europe et ensuite peut-être plus tard made in France.
Le vélo fabriqué en Chine est peut-être symbole du monde de demain en Occident. Un emblème à n'en pas douter à plus d'un titre de cette crise économique, environnementale et sanitaire.
Afin d'enrayer la propagation du coronavirus, la Russie avait fermé sa frontière avec la Chine dès la fin du mois de janvier. Une frontière qui s'étend sur plus de 4000 km. Sur une grande partie du tracé, les deux pays sont délimités par le fleuve Amour. Un pont reliant les deux rives devait être ouvert à la circulation au printemps, mais son inauguration a été différée en raison de l'épidémie, Étienne Bouche.
Cela faisait plus d'un quart de siècle que ce projet de pont transfrontalier était à l'étude. Il a fallu surmonter bien des blocages, mais le chantier a finalement débuté fin 2016. Depuis quelques mois, la construction est officiellement achevée. Ce pont de 1080 mètres relie la région russe de l'Amour et la province chinoise du Heilongjiang. Il a bien sûr une forte valeur symbolique, celle du rapprochement entre la Russie et la Chine. Depuis plusieurs années, Moscou a fait du développement de son Extrême-Orient une priorité de politique intérieure. Un ministère spécial a d'ailleurs été créé en 2012. Celui-ci estime que grâce à ce pont, le trafic de marchandises pourrait être multiplié par 8. La Russie espère aussi attirer des investissements dans une région qui, malgré les mesures incitatives de l'État, continue de se dépeupler. Le pont devait entrer en exploitation ce mois-ci, mais l'épidémie de Covid-19 a eu raison de son inauguration. Selon les autorités, la circulation débutera dès la levée des restrictions sanitaires. La frontière est fermée depuis le 31 janvier et l'épidémie a porté un sérieux coup à cette coopération russo-chinoise que l'on aime habituellement célébrer. À Blagoveshchensk, cette fermeture a des conséquences économiques sensibles. Cette ville russe située le long du fleuve se retrouve privée de ses touristes, mais surtout de sa main-d'œuvre. Côté russe, certains secteurs d'activité dépendent des travailleurs saisonniers chinois. C'est le cas par exemple du bâtiment et de l'exploitation forestière. Les autorités régionales ont annoncé des mesures de soutien au milieu des affaires, mais les entrepreneurs interrogés dans la presse locale n'espèrent qu'une chose, le rétablissement de la circulation entre les deux rives.
We're just like other people. We're human. And sometimes very human.
Même à ce stade de déconfinement, de nombreux pays de l'Union européenne connaissent encore des restrictions à la circulation routière, ferroviaire ou aérienne, avec des différences entre la France et certains de ses voisins. On en parle avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
Daniel, à ce stade de la crise, est-ce que la circulation des Européens connaît encore des restrictions ?
Le déconfinement progressif des populations, intervenu un peu partout au mois de mai, a effectivement permis à celles-ci de commencer à recirculer au-delà d'un périmètre réduit. Mais il faut distinguer la circulation à l'intérieur des pays de ce qui relève des déplacements internationaux. Pour ce qui est des déplacements nationaux, trois pays continuent pour l'instant à les encadrer. En France, et au moins jusqu'au 2 juin, on ne peut aller au-delà de 100 km de son domicile, sauf à justifier de raisons familiales ou professionnelles impérieuses. En Italie, jusqu'au 3 juin prochain, nul n'est censé quitter sa région d'origine, si ce n'est, là encore, pour des raisons professionnelles, sanitaires ou familiales valables. Il en va de même en Espagne jusqu'au 22 juin pour les déplacements interrégionaux. Reste que dans ces trois pays, les motifs de dérogation sont essentiellement déclaratifs, rendant peu difficile à contourner les restrictions de circulation. Ailleurs, en revanche, notamment en Allemagne ou au Royaume-Uni, il n'y a plus aucune restriction aux déplacements à l'intérieur des frontières.
Et pour ce qui est des déplacements à l'étranger ?
Il n'y a pas de limitation à l'entrée au Royaume-Uni, mais à partir du 8 juin, les arrivants devront remplir un formulaire indiquant les détails du voyage et se soumettre à une quarantaine de 14 jours. Les Français espéraient en être exemptés, comme les Irlandais, mais ce ne sera, semble-t-il, pas le cas. En Allemagne, les restrictions à l'entrée ont été levées le 18 mai pour les ressortissants des pays de l'espace économique européen, l'EEE, le Royaume-Uni et la Suisse. Auparavant, il fallait une raison importante pour entrer. En Italie, l'interdiction, sauf motif dérogatoire, sera levée le 3 juin pour les ressortissants de l'EEE élargie au Royaume-Uni et à la Suisse. Quant à l'Espagne, fermée jusqu'au 15 mai aux non-résidents, elle exige une quarantaine de 14 jours pour les séjours dépassant cette durée. Cette mesure sera en vigueur jusqu'au 1er juillet. Enfin, la France demeure très restrictive jusqu'au 15 juin et ne permet l'entrée sur son territoire qu'aux ressortissants de l'EEE élargie qui résident en France ou y transitent pour rejoindre leur pays de résidence. Des dérogations sont cependant possibles en raison de garde ou de visite d'enfants ou pour des motifs économiques impérieux. Bref, le passage des frontières est moins encadré au nord qu'au sud de l'Europe, France inclus.
Enfin, Daniel, quelle est la situation des opérateurs publics ?
Les opérateurs ferroviaires accusent des pertes abyssales. Elles pourraient dépasser 13 milliards d'euros pour la Deutsche Bahn qui négocie avec l'État une aide de 7 à 8 milliards et demi. En France, SNCF table sur 3 milliards de pertes, mais à court terme, et son président en appelle à un plan de relance. C'est ce que juge également nécessaire Trenitalia, qui prévoit 2 milliards de pertes pour 2020. Quant aux compagnies aériennes, leur situation est encore plus dramatique. Air France KLM, dont le trafic a chuté de 95%, va recevoir 7 milliards d'euros de prêts bancaires et de l'État en contrepartie d'engagements importants en matière de réduction de ses émissions de CO2. Une enveloppe à laquelle viendra s'ajouter quelque 2,4 milliards d'aides de l'État néerlandais. En Allemagne, Lufthansa attend la validation d'un plan de sauvetage de 9 milliards d'euros qui pourrait impliquer une nationalisation partielle de son capital. Enfin, en Italie, une renationalisation d'Alitalia est suggérée par le président des chemins de fer qui propose carrément une fusion entre le groupe ferroviaire et la compagnie aérienne. On le voit, le Covid-19 n'a pas fini de rebattre les cartes pour l'industrie des transports.
Merci Daniel, à bientôt.
À bientôt Juliette.
Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Demain, vous retrouvez au micro Léa Lisa Westerhoff pour une émission consacrée aux nouveaux modes de vie. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur les réseaux sociaux. À bientôt.